Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci d'être présent à ce café littéraire. C'est toujours un café que j'anime, tout simplement parce qu'on parle de premier roman. On verra d'ailleurs qu'il y a quelques nuances dans cette formule de coup de cœur en fait, du festival. C'est-à-dire qu'il y a un coup de cœur qui est Jean-Laurent Del Socorro, que vous retrouverez dans différents cafés. Mais il y a aussi, tout au long de l'année, des coups de cœur, des premiers romans. Les Imaginales, on le dit toujours, c'est le festival des belles rencontres. C'est ce qu'avait dit un journaliste et qu'on a repris à notre compte. Je trouve que c'est un joli titre. Et c'est, parmi ces belles rencontres, ce sont les auteurs qui débutent dans le métier. Les auteurs qui débutent en fantasy, en imaginaire, et ce sont aussi les auteurs qui arrivent avec un premier roman qui vient de sortir ou il y a peu et qui quelque part attendent le verdict des lecteurs et le verdict du public, aussi des spécialistes. Donc c'est toujours un moment important et on incite toujours nos lecteurs à donner leur chance à ces écrivains talentueux, à ces écrivains qui débutent dans le métier ou qui débutent dans le genre après avoir écrit des romans. C'est pour ça que je relativise cette notion de premier roman. Il y a des vrais premiers romans. Florian, c'est exactement ça, Soulas. Ensuite, nous avons Patrick Morand, c'est un vrai premier roman. Hélène Merel, sous son nom, c'est un vrai premier roman, mais sous pseudonyme, dans tes catégories louches que la morale m'interdit de nommer. Elle a déjà écrit, elle a donc fait ses premières armes dans des exercices de style très différents, mais qui apprennent bien l'écriture. Voilà. Et puis Patrick Doudnet, j'espère que je le prononce bien. Merci, origine franco-britannique, bien sûr. Britannique tout court, ça ne s'entend pas. Bien, Patrick Doudnet a démarré dans la carrière dans le roman noir, on va dire ça comme ça. C'est mieux qu'un micro, sinon le public ne vous entend pas.
Tout à fait, oui. En fait, plutôt polar au début, poésie, roman noir. Et donc, ouais, L'Enfant de poussière, c'est mon sixième roman. Voilà.
Mais le premier roman
dans l'imaginaire. Mais le premier roman en imaginaire, effectivement.
Voilà, ouais. Absolument. Voilà. Eh bien, on va commencer par l'un d'entre vous. On va commencer par qui ? L'intellectuel, l'universitaire. Voilà. Bon, maintenant qu'on fait un colloque universitaire aux Imaginales, maintenant que des dizaines de doctorants, de maîtres de conférences et de professeurs crient leur amour de l'imaginaire, de la science-fiction, du fantastique et de la fantaisie, les temps changent en France et que donc on peut être à l'aise maintenant et d'accueillir des universitaires qui ne se posent même plus la question de s'encanailler, qui simplement écrivent de l'imaginaire parce que c'est une des plus belles littératures et qu'il y a beaucoup de beaux romans et... Patrick Morand, justement, est un roman surprenant, La Cresserelle, chez Mnemos. Une belle rencontre un peu désarçonnante au début. C'est un roman très particulier, avec un ton, comme on dit. Mais moi, j'ai adhéré. L'accent de la jeune femme sonne comme un morceau de musique dont les notes les plus discrètes seraient fausses. Les quatre aventuriers se regardent les uns les autres, tout s'éclaire. Le vent sur la plaine tourne et les nuages s'écartent pour laisser passer un peu de lumière qui s'écoule sur les collines basses comme du beurre fondu. La femme du groupe adopte une attitude défensive, les bras croisés. « Tu viens nous le réclamer, c'est ça ?» Une Illy envoyée par les Creusopontes pour le récupérer ?« Comment est-ce que t'as fait pour arriver ici avant nous ?» La femme en noir secoue la tête. En souriant, elle baisse les yeux vers ses pieds. Un observateur attentif noterait la teinte rosée que prend son épiderme, comme si sa température corporelle avait brusquement augmenté. En réalité, les pores de sa peau se sont mis à suer de minuscules quantités de sang et c'est l'effleurement du liquide qui rosit son visage et ses mains. Aucun des quatre aventuriers ne le remarque. Pourtant, puisqu'ils ont fréquenté les territoires du Sud, ils ont dû entendre des histoires à ce sujet. Peut-être étaient-ils trop occupés par leur mission. « Vous travaillez pour le publicain de Chaznarim ?» demande la femme en noir. « C'est lui qui réclame le cœur. On n'entend que ça là-bas. » Mais, dit l'autre femme, tu n'es pas méridionale. Le sud est une terre empoisonnée. Votre septentrion s'y est mué à mon caractère. Bon, dit-elle en se massant la nuque, je ne vais pas m'éterniser sur ce coin de route. Le publicain est très secret et j'ai besoin de le voir. Les quatre autres ne réagissent pas tout de suite. Il leur faut un moment avant de comprendre les implications de ce qu'elle vient de dire. Et le temps qu'ils y parviennent, la tête de l'homme au visage caoutchouteux s'est retournée sur elle-même et a explosé dans une gerbe de sang et de matière cérébrale. Ses trois compagnons de route sont éclaboussés par la déflagration et l'homme d'âge moyen reçoit une esquille d'os crânien dans l'œil, ce qui l'oblige à s'agenouiller. Je vous passe la suite, ça ne sera pas plus gai. Cette cresserelle, Patrick Morand, elle a un sens de l'humour un peu caustique. Il y a un ton, comme je disais, mais c'est une tueuse.
Oui. oui, la cresserelle, c'est une tueuse. Elle s'en justifie pas, elle n'a pas besoin de s'en justifier. Elle considère que la seule personne qui est importante pour elle, c'est elle-même. Et elle mène sa vie comme elle doit la mener. En réalité, la cresserelle, est, comme vous l'avez compris, c'est une praticienne de magie dans un univers qui connaît mal la magie, qui en a peur, dans laquelle la magie est particulièrement sanglante, violente, effrayante, et se résout généralement dans la mort. La cresserelle, en plus de ça, a passé une sorte de pacte avec une entité qu'on appelle l'entité de l'outre-monde. On ne sait pas très bien ce que c'est, entité démoniaque, extra-cosmique, extraterrestre, mais... qui l'oblige justement à tuer. Mais au début du roman, donc c'est vraiment une scène du tout début du roman qui est délibérément très spectaculaire, terrible. La cresserelle ne se pose plus de questions sur ce qu'elle fait. Et la question du roman, c'est comment est-ce qu'elle va être amenée à se poser des questions sur son comportement de tueuse, de mercenaire et d'individualiste acharné.
Patrick Dounet, tu es aussi... Là, c'est l'enfance d'un tueur, peut-être, quelque part. On pourrait dire ça comme ça. En tout cas, on peut se poser la question au début. On va rencontrer des personnages qui sont, en quelque sorte, on va dire, en formation. Ils sont à l'école. Pas une école très sympathique, pas une école très tendre. Peut-être une école de la vie, on va le dire, mais bon. Petit extrait. Le lendemain de ma visite, S était parti interroger l'aide du palefrenier qu'il avait cru reconnaître dans la description que je lui avais fournie. Pris entre quatre yeux... Bourlaine avait fini par tout avouer en tremblant, d'autant plus que S n'arrivait pas les mains vides. Par le biais de ses informateurs, il avait déjà appris que l'individu en question avait contracté de grosses dettes dans une maison de jeu de la rue de la Cloche. L'homme fut traduit en justice devant le seigneur Bard, qui, magnanime, prit seulement une phalange sur la main entière que Bourlaine lui devait. Il régla ensuite les dettes du jeune homme, et ne le renvoyant pas de son service, comme le lui recommandaient plusieurs de ses conseillers. S me rapporta la scène en détail. Le primat Bard de Volonge affirma que si Bourlaine était un piètre joueur doublé d'un piètre penseur, il n'en devrait pas moins doué avec les chevaux. L'un des assistants du justicaire, un jeune homme un peu trop certain de sa propre importance, eut alors le culot d'insinuer qu'en agissant ainsi, le primat, sauf son respect, encourageait le crime. Comme il se trouvait que personne n'avait demandé son avis à l'assistant en question, Bard lui fit de bien sèches remontrances. Le rôle d'un primat est de veiller au bien-être de ses sujets. Cet homme est mon sujet, et en agissant ainsi, je veille non seulement à son bien-être, mais également au bien-être de ses concitoyens. Cornebrume n'a pas besoin d'un autre invalide qui tombera dans la mendicité ou le brigandage lorsqu'il ne pourra plus exercer de métier honnête faute de main. Je n'avais pas tout compris, mais j'avais noté la magnanimité de Bard, et S avait achevé son récit en levant au plafond des yeux brillants. C'est un honneur que de servir un homme aussi avisé. Bard était en effet un bon primat, apprécié par son peuple et ses gens. Et si par la suite certains créanciers de la haute prit l'habitude de dire à leurs débiteurs en retard de paiement qu'ils pouvaient toujours aller voler le cheval de Bard, une majorité de résidents approuvèrent la décision. Le jour même, après avoir rendu justice, Bard avait quitté Cornebrune pour une nouvelle table ronde des primats en compagnie d'une escorte conséquente et l'aimable vieux Penn était de ceux-là. Voilà, on voit un univers médiéval. On voit des personnages qui discutent de la façon dont un responsable important de cette société rend la justice. Qu'est-ce qui vous a amené, Patrick Dounet, après avoir une autre expérience dans la poésie, dans le roman noir, à vous lancer dans la fantasy et d'en reprendre apparemment les codes les plus canoniques ?
C'est très simple en fait, c'est que moi littérairement je viens de la fantasy, en tout cas de la littérature de l'imaginaire, et j'ai toujours voulu me lancer dans une saga un peu conséquente pour apporter ma petite pierre à cet univers là. Le truc c'est que je pense que j'avais aussi pas mal de recul en fait sur mes capacités en tant qu'auteur et que je savais que j'avais besoin de me faire les armes sur des textes plus courts, en fait d'acquérir une, on va dire, une maîtrise théorique de l'écriture avant de me lancer dans quelque chose d'aussi énorme, puisque enfin L'Enfant de Poussière, c'est le premier volume d'une saga qui est conçue comme une heptalogie. C'est des gros bébés. J'avais pas les épaules pour les porter. Moi, j'ai commencé à publier très jeune. Mon premier roman a été publié, j'avais 21 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Et du coup, voilà, je commence à pouvoir dire que ouais, je me sens d'avoir la carrure pour le faire. Donc, il s'est trouvé que Marion Mazurik du Diable Vert était d'accord avec moi. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça.
L'Enfant de Poussière, au Diable Vauvert. On passe maintenant au troisième premier roman, vrai, faux premier roman, là aussi on l'a dit sous pseudonyme, des romans dans d'autres catégories, et puis l'écriture maîtrisée, Hélène Merel se lance dans une trilogie de fantasy chez Bragelonne, Automne des magiciens, le tome 1 s'appelant La Fugitive, voyons un peu. Ta beauté de peu d'importance, précisa la reine en désignant ses cheveux du bout de sa cravache. Il était stupide de me défier. Cet ambassadeur est plus intéressé par tes seins et tes hanches, qui sont des indices pour reconnaître une bonne reproductrice. Encore qu'il n'y ait pas grand-chose observé chez toi dans ce domaine. Octaviane se sentit rougir de honte, ou plutôt de colère. Sa sœur cherchait-elle délibérément à l'humilier pour la punir de son accès de rébellion? Quelques pas derrière le banc, elle entrevit la silhouette immobile de Morin, et sa rage redoubla à la pensée qu'il avait peut-être entendu ses commentaires méprisants sur son anatomie. Elle s'efforça de répliquer avec la même froideur « Puis-je demander à votre majesté ce que le royaume d'Algème obtiendra pour prix de la vente d'une princesse, même une aussi médiocre productrice que moi ?» Sa sœur lui lança un regard d'avertissement. « Garde tes sarcasmes, Octaviane. Si tu te montrais plus assidu aux leçons de tes précepteurs, tu saurais qu'Algème tente depuis des années d'interdire le commerce des êtres humains dans toutes les 9 cités. » Inissan est le principal royaume qu'il pratique encore. « Je sais cela, protesta-t-elle. Quel est l'intérêt de conclure une alliance avec notre adversaire ?» Prima poussa un soupir condescendant. « Nous concilier les bonnes grâces du prince Hadis est une étape essentielle dans notre chemin vers l'abolition de l'esclavage. Ce n'est certainement pas une épouse du Nord qui arriverait à bouleverser tout un système. Je ne m'attends pas à un changement immédiat, reconnut Prima du bout des lèvres, mais les souverains élaborent leur diplomatie à plus long terme. « Quelle est la stratégie d'Algème ?» insista Octaviane. « Quel sera mon rôle à part porter les enfants d'un vieil esclavagiste ?»« Le prince Hadis est âgé, » admit la reine sans vergogne. « Dans quelques années, tu pourrais placer sur le trône un héritier plus favorable à nos idées. Cet enjeu dépasse de beaucoup d'importance, ta petite personne. » L'insulte la fit bondir intérieurement. Elle s'exclama « Je suis pas ton esclave !» Prima parut désarçonnée par sa protestation ou bien par sa véhémence, mais une colère brûlante remplaça aussitôt l'étonnement dans ses yeux étincelants. Elle serra les poings et inspira profondément. « La reine d'Algem te commande de t'agenouiller devant elle. » Octaviane n'avait jamais rien ressenti de tel. La pression de l'air sembla se modifier soudainement pour écraser son corps sur le sol. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Ses genoux heurtèrent brutalement une racine. Ses poumons luttaient à chaque souffle, et un bourdonnement naquit dans ses tempes. La brève suffocation qu'elle avait ressentie 5 ans plus tôt n'avait été qu'un avant-goût de cette oppression qui la jetait à terre. À travers les points noirs qui obscurcissaient sa vision, elle vit sa sœur se rapprocher, un rictus satisfait sur les lèvres. « À présent, tu m'obéiras et tu te montreras docile envers le légat d'Inissan. Bah, » La leçon de choses est faite, infligée, on a bien compris, un monde féodal, des choses bougent, des objectifs politiques, des alliances où on utilise les princesses comme il se doit pour justement favoriser ses orientations politiques, et puis la magie qui est utilisée pour faire une démonstration de pouvoir, car chacun sait depuis Orwell que le seul vrai pouvoir, c'est celui de faire mal. C'est ça que dit votre livre, Hélène Merel, le seul vrai pouvoir, c'est celui de faire mal.
C'est aussi une réflexion sur, quand on dispose du pouvoir, on peut l'utiliser de différentes manières. Donc là, on voit le conflit entre les deux sœurs, l'aînée qui veut utiliser son pouvoir comme domination, parce que pour elle, la fin justifie les moyens, et étant donné qu'elle a des idées humanistes, abolir l'esclavage, elle estime que pour poursuivre ce but noble, finalement, elle a le droit de traiter sa sœur comme une esclave. Et en face, de l'autre côté donc de ce conflit, nous avons Octaviane qui... eh bien, qui, elle, va petit à petit découvrir qu'on peut faire d'autres utilisations de la magie, du pouvoir, en fonction des pays où elle se rend, des rencontres qu'elle fait. Et finalement, ce n'est pas si simple que ça. On peut utiliser ce pouvoir pour toutes sortes de choses, comme guérir, enfin, dans des buts quand même un peu plus altruistes.
Un autre univers. Là, on n'est pas tout à fait, même pas du tout, dans... les univers de fantasy, les univers de fantasy d'action. On est dans une sorte de siècle décalé quelque part. On est dans le steampunk, je crois qu'on peut lâcher le mot, Floriane Soulas. Un petit extrait aussi pour plonger dans l'univers. Elle se faufila de rue en ruelle, la tête basse, guettant les bruits si reconnaissables des chiens mécaniques de la police parisienne. Voilà les choses posées. Elle allait traverser la rue pour rejoindre la porte arrière du petit immeuble privé qui abritait les jardins quand une voix familière s'éleva près d'elle. Violante se rencogna précipitamment dans une porte cochère. Elle risqua un coup d'œil pour découvrir un jeune homme, accompagné d'une femme à la peau bronzée et aux longs cheveux noirs tressés. Elle reconnut immédiatement Merle, le plus jeune rabatteur de Léon. Celui-ci amenait visiblement une nouvelle prise pour la soumettre à l'œil experte de Madeleine, espérant ainsi un joli pécule en échange de la fille. Violante observa le couple en se mordillant l'ongle du pouce. Plus le temps passait, plus elle risquait de faire une mauvaise rencontre en remontant dans sa chambre. Impossible pourtant de se jeter au-devant de Merle comme si de rien n'était. Se faire prendre, c'était dire adieu à la liberté occasionnelle dont la jeune femme jouissait clandestinement. Elle les observa, sonner à la porte principale et pénétrer dans le bordel. Quand elle estima qu'elle ne risquait plus de tomber sur Merle ou Madeleine au rez-de-chaussée, elle se hâta vers la petite cour qui flanquait l'arrière des jardins pour rejoindre sa chambre le plus discrètement possible. Des voix féminines résonnèrent dans son dos. Elle jeta un coup d'œil affolé par-dessus son épaule. Deux femmes en robe noire et d'un front blanc en grande conversation se dirigeaient droit sur elle. « Mince !» marmonna la courtisane en se mordant la lèvre inférieure alors qu'elle reconnaissait Agnès et Louison, les bonnes chargées du repas et du linge au jardin. Elle s'engouffra par la porte de service, haletante, paniquée, juste à temps pour disparaître de la cuisine alors que la porte s'ouvrait. Violente gravit 4 à 4 les marches de l'escalier de service, pressée de rejoindre la sécurité de sa chambre. Elle était de retour dans sa cage dorée. Sans attendre, elle se débarrassa de sa cape, qu'elle roula en boule sous le sommier, et s'étendit en travers du lit pour rattraper son sommeil en retard. Elle redeviendrait duchesse ce soir. Un monde donc steampunk, les chiens mécaniques de la police parisienne, une fille du peuple, une jeune prostituée, des macros, des victimes. Il en faut, disait Sade. Est-ce que c'est la morale de votre roman, Rouille, Floriane Soulas ?
Ça pourrait, en fait, oui. Rouille, c'est vraiment le steampunk du petit peuple. On a beaucoup l'habitude de lire du steampunk avec des princesses ou des duchesses, avec beaucoup de grandes scènes de bal, choses comme ça. Donc il y en a dans le livre. Mais c'était une volonté d'explorer le petit peuple de Paris, de la Belle Époque, qui vivait vraiment complètement coupé de cette vision-là de la Belle Époque, qui vivait un peu dans la crasse et qui était victime de tout ce qu'il ne pouvait pas avoir. Donc Rouille, c'est vraiment un roman des choses abandonnées, de tout ce qu'on n'a pas voulu retenir de cette période-là de l'histoire. Et c'est sur le dos de ces gens-là que s'est fait la Belle Époque. Et c'était ça que je voulais raconter. C'est une histoire de victime, parce que Violente, c'est une prostituée, déjà, qui n'a pas de mémoire. Donc, il s'est retrouvé là, elle ne sait pas trop comment, et elle aimerait bien le savoir. Et elle est victime de son amnésie, des gens qui l'entourent, des gens qu'elle va rencontrer. Et elle va découvrir que si elle veut savoir qui elle est, d'où elle vient et s'en sortir, il va falloir qu'elle se batte, quitte à elle-même y laisser des plumes, mais aussi à blesser d'autres gens autour d'elle. Et en plus, j'aime beaucoup ça, donc ça me va très bien. Je pense qu'il faut des victimes dans la vie.
Ils dépassèrent Madeleine sans lui adresser un mot et dans un silence morbide quittèrent les jardins mécaniques. Ils traversèrent la ville de jour. Léon menait la marche, taciturne. Violente le suivait sans un mot. La vie qui animait les ruelles, les cris des gens, le chuintement de la vapeur des fiacres mécaniques, tout cela contrastait fortement avec la ville nocturne, silencieuse et brumeuse qu'elle connaissait. Elle traversa ce Paris inconnu dans l'indifférence. Toutes ses pensées étaient tournées vers leur destination, ce qu'elle allait y trouver. L'angoisse pesait comme une pierre sur son estomac. La réaction de Jules lorsque Léon avait décidé de l'emmener à la morgue ne disait rien qui vaille. Après tout, il était celui qui avait découvert Satine. Instinctivement, Violaine se dirigea vers le dôme, mais Léon lui indiqua un autre chemin. « Pas par là, Mais enfin, la morgue, il garde ces cadavres-là à l'abri des regards, sous le commissariat, l'informa-t-il la mine sombre. Il ne faudrait pas créer une vague de panique parmi la population en les exposant à la vue de tous. Ils arrivèrent près de l'immense immeuble haussmannien qui abritait le commissariat, duquel entraient et sortaient des hommes en uniforme. L'angoisse de Violante se mua en peur, un serpent terrorisé qui se tortillait dans son ventre. La façade avait été repeinte dans des tons gris, et des barreaux avaient été posés à toutes les fenêtres du rez-de-chaussée du premier étage. L'immeuble lui parut effrayant et impersonnel, intimidant. Elle se douta que c'était l'effet souhaité. Ils obliquèrent sur la droite et s'enfoncèrent dans les petites rues qui bordaient le bâtiment. Léon les fit s'arrêter près d'une porte grillagée, presque un soupirail. Ils attendirent que les rares passants désertent la rue et le souteneur siffla trois fois rapidement. Presque aussitôt, un visage ravagé surgit entre les barreaux. Violante poussa un cri de terreur en voyant la trogne lui sourire dans la pénombre. « Salut Léon, ça se passe ?» dit l'horrible visage d'une voix granuleuse. « Salut le tolard, on fait aller. Tu nous amènes de la visite ? C'est bien bon de ta part, ça. C'est quoi que je peux faire pour toi ? On a besoin de voir quelqu'un. « Je peux pas vous amener aux cellules, trop de mouvements sont sur les dents là-dedans, » expliqua le tolard. « Rapport au meurtre ? J'ai entendu dire que c'était pas joli à voir. »« Ouais, » répondit l'homme en crachant un glavio. « Un vrai merdier. Couvre-feu officiel, t'as lu les journaux ?»« C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai des filles qui sont passées à la casserole. T'as des infos pour moi ?»« Pas grand-chose, c'est la panique là-haut, » répondit le tolard en levant les yeux vers le plafond. « Beaucoup de morts en tout cas, beaucoup de morceaux en moins aussi. T'as besoin de quoi ?» On vient voir un cadavre. Tueur en série, on pense tout de suite à Jacques l'Éventreur, bien sûr. C'est un clin d'œil.
Oui, d'ailleurs, à un moment, on l'est cité dans le livre parce que Violante passe dans la rue et voit un livreur de journaux qui cite un gros titre de journal qui raconte un nouveau Jacques l'Éventreur dans Paris. Oui.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers le steampunk ? Alors, pour préciser ma question, parfois, alors, on peut aimer votre livre. C'est autre chose, on peut aimer un livre précisément. Je ne suis pas une inconditionnelle à titre personnel du steampunk, toujours. Parce que souvent, je me dis qu'il s'agit d'un rétro-futur et je me demande si les auteurs français ne sont pas parfois de science-fiction, puisque en l'occurrence, c'est une catégorie de science-fiction, le steampunk, plutôt. Est-ce que parfois, les auteurs français ne sont pas plus tournés vers le passé que vers l'avenir ? Est-ce que quelque part, ça traduit, même si ce sont des mondes extrêmement violents, difficiles, âpres, c'est pas un roman gentillet hein, du tout ? Même si c'est un roman où les personnages peuvent se battre pour leur liberté, hein. C'est pas non plus un roman de résignation et de souffrance uniquement. Est-ce que parfois quand même, est-ce que vous y avez pensé en tout cas, Florian Tsoulas, les auteurs français pensent au passé, pas au futur. Ils pensent à l'Uchronie, ils pensent au steampunk, ils écrivent peu de space opéra, ils travaillent peu sur les nouvelles technologies, ils réfléchissent peu sur les réseaux sociaux, sur la virtualité. Camille Brissot, en jeunesse, l'a fait très brillamment. Elle a d'ailleurs décroché le prix Imaginal des collégiens sur ce thème-là. Donc, est-ce que votre façon, Florian Tsoulas, de faire du steampunk, c'est une façon régressive ou est-ce que c'est une façon qui permet de s'interroger sur l'état de notre société ?
C'est compliqué comme question. Je vois deux pistes de réponse. En fait, je pense que on écrit, pour moi, la science-fiction, en tout cas la science-fiction que j'ai lue, parce que celle que mon père m'a fait lire quand j'étais jeune, c'était beaucoup d'Américains. Et je pense que contrairement aux Américains, on a, nous, une histoire qui est très riche, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus vraiment riche et foisonnante qu'eux peuvent l'avoir. Et je pense que les auteurs, on a peut-être un peu ce fantasme de pouvoir réécrire ce qui s'est passé et d'aller explorer ces époques qu'on a aimées mais qu'on n'a pas pu vivre. Donc, du coup, c'est peut-être plus tentant pour nous d'aller puiser dans notre histoire personnelle, chose que les Américains n'ont pas parce qu'ils n'ont que 300 ans d'existence, donc en 300 ans, on ne fait pas grand-chose. Du coup, c'est peut-être plus simple pour eux d'être tournés vers un avenir plutôt que pour nous qui avons vraiment, on a eu tellement de choses. L'Europe, c'est tellement riche, il s'est passé tellement de choses, notamment pour l'Uchronie, c'est un puits d'idées et d'explorations possibles infinies. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Et ensuite, je pense que c'est vraiment des époques qui sont vraiment intéressantes. La Belle Époque, c'est une époque qui est très très forte parce que c'est à la fois une époque pivot sur le plan technologique et aussi sur le plan sociétal. Donc c'est vraiment ça, la Belle Époque, c'est 1870-1920, c'est vraiment, ça suit la révolution industrielle, donc il s'est passé beaucoup de choses, c'est encore une fois très riche, et du coup c'est technologiquement il se passe beaucoup de choses, et sociétalement il se passe beaucoup de choses, notamment donc, Rouille parle de prostitution, mais il parle aussi de la condition des femmes. C'était un moment très charnière pour les femmes parce que c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à sortir des bordels, à s'encarter seules, sans utiliser de macro. Elles ont vraiment pris la main sur la société. C'était les grandes horizontales qui se faisaient entretenir, qui ruinaient des princes et des rois. Elles avaient vraiment une espèce de volonté de se construire toutes seules, d'être dépendantes parce qu'elles l'avaient choisie, mais de pouvoir répudier les hommes qui avaient fait leur renommée comme si c'était seulement des péquenots qu'elles chopaient dans la rue. C'était vraiment une volonté de s'affirmer en tant que femme qu'on a perdue après avec la Première Guerre mondiale. Et du coup, c'était intéressant parce que ça résonne très fortement avec ce qu'on vit aujourd'hui, où on est dans une période où justement, depuis quelques années, les femmes commencent à se réaffirmer aussi. Il y a beaucoup de mouvements comme ça. Et du coup, on peut faire un parallèle dans ces deux époques-là. Et pour moi, c'était une façon un peu cachée de montrer que... qu'on pouvait faire ça et que même à cette époque-là, il s'était passé des choses et que voilà, c'est en tant que féministe, c'est une lutte qui est pas nouvelle, qui prend de l'ampleur encore aujourd'hui, mais qui a déjà connu des accès un peu coup de poing comme ça dans le passé. Et du coup, c'est un petit parallèle. Voilà, on peut être féministe même en 1897.
Est-ce qu'on peut l'être dans un monde de fantaisie épique, Hélène Merel, on va donner un petit passage pour donner le ton. Adalgis avait décrété que la rivière Froide Eau serait leur première étape, puisque Iva n'avait pas en tête une destination précise. Elle voulait aller vers le sud, disait-elle. Quant à lui, il estimait plus prudent de quitter la forêt, car il n'était pas bien rétabli pour la protéger d'une autre attaque de puma. La rivière coulait à plusieurs jours de marche vers l'ouest. Il s'était d'abord dit que la fillette ralentirait sa progression, mais il s'avéra que c'était lui qui peinait. Tous les muscles de sa jambe gauche étaient noués et il boitait au bout d'une heure d'effort. La souffrance lui embrumait suffisamment l'esprit pour effacer le remords d'avoir prêté un serment si peu réfléchi. Servir de guide pour un voyage sans destination. Promettre d'accompagner cet apprenti jusqu'à son maître de magie. Autant se jeter directement dans la gueule du loup. Il se serait maudit de son irréflexion s'il avait pu se projeter au-delà du pas suivant. « Laisse-moi essayer un autre sort », finit par proposer Iva, avec inquiétude. « Le premier n'a pas l'air d'agir aussi bien que d'habitude. Voilà qui ne m'inspire pas confiance, grogna-t-il. T'es sûr de savoir te servir de ta magie ?» « Je suis une bonne guérisseuse, répliqua-t-elle avec assurance. Mais tu n'es pas un patient comme les autres. Il faut peut-être que j'adapte mes runes. » Adalgis se doutait de l'origine du problème. Quand les hybrides étaient blessés au combat, les guérisseurs prenaient rarement la peine de les soigner. Leur magie interférait, les sorts se révélaient souvent inefficaces. Il fallait espérer que son corps se réparerait de lui-même maintenant qu'il ne perdait plus de sang. Iva poussa un soupir excédé, mais il persista à refuser son aide. C'était une magicienne. Le lion en lui hérissait son pelage chaque fois qu'il percevait la moindre onde de pouvoir irradiant d'elle. Comment savoir si elle n'allait pas tenter de le soumettre avec un de ses dessins mystérieux ? Il ne tenait pas à finir avec un collier et une laisse comme un fauve apprivoisé. C'était déjà assez inquiétant d'être lié à elle par un serment. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière, son honneur le lui interdisait. La douleur augmenta à chaque pas. Quelques heures plus tard, prendre appui sur son pied gauche pour enjamber une racine devint un enfer. Sauter par-dessus un ruisseau, une tâche insurmontable. Le simple fait de marcher l'obligeait à puiser dans ses ressources magiques. Adalgis appela Iva, il faut te reposer. Jetant un coup d'œil derrière lui, il constata qu'Iva s'était arrêté. Par une trouée dans la forêt, on apercevait le ciel. La lune se levait, minuscule, sur l'horizon bleuâtre. Sa petite compagne de voyage avait incliné la tête pieusement. Il voyait ses lèvres remuer. Adalgis étira prudemment sa jambe gauche et le regretta aussitôt. Lorsque des pointes de feu lui transpercèrent l'autre jambe, il décida de ne pas s'asseoir pendant qu'Iva récitait le salut à la lune. Il n'aurait pas réussi à se relever. Mais il profita de cette pause pour choisir une branche solide et s'en faire un bâton de marche. « Tu ne pries pas la lune sans qui, ingénument Iva en le rejoignant, ce n'est pas ta religion ?»« Les animaux n'ont pas de religion, ricana Adalgis. Quant aux hybrides, on leur apprend à tuer de toutes les manières possibles, mais certainement pas à prier. » Voilà, des hybrides, de la magie, un monde de fantaisie et de l'athéisme aussi. Donc, à la fois, vous jouez visiblement dans La Fugitive, ce premier tome d'automne des magiciens, donc chez Bragelonne. Vous jouez des codes, visiblement, vous les maîtrisez très bien. Mais on voit bien qu'il y a des petits décalages qui apparaissent. Vous avez votre propre voix, Hélène Merel. C'est quoi votre conception de la fantaisie épique ?
Alors moi, je dirais que j'ai toujours adoré la mythologie. Voilà, je suis passionnée de mythologie. J'ai grandi avec les contes et légendes, avec l'Iliade et l'Odyssée, qui sont pour moi les deux premiers romans de fantasy et peut-être les deux plus réussis. Et donc j'ai voulu essayer de retrouver ou de recréer plutôt des ambiances mythologiques, des conflits mythologiques, des créatures, donc comme cet hybride qui est donc moitié homme, moitié lion, parce que je trouve que bah, la mythologie a encore beaucoup à nous apporter et elle nous permet de comprendre par exemple le dilemme de ce personnage qui est toujours tendu entre sa moitié humaine, raisonnable, rationnelle et les instincts qui, donc on l'explique, viennent de sa part animale, mais bon, chacun de nous, on comprend bien que c'est symbolique du déchirement entre le désir, la raison et donc tout ça, ça nous permet de le montrer.
Patrick Doudnet, une autre façon peut-être de, là aussi, gérer la fantaisie. Livre deuxième, Le Manchot. En ce 26e jour de la lune des semailles, le seigneur primat Bard Volonge, surnommé l'Ancien, a pris pour seconde épouse la nomélienne du peuple des Sifs que l'on dit sauvage. La cérémonie s'est tenue au cercle de Château-Corne et l'union scellée devant témoins et foule. Le sang fut versé selon la coutume brunide et les marques claniques inscrites dans la chair selon la façon des Sifs. En guise de cadeau, le primat a fait don de 300 ars de terre situés sur la crête ouest, en ce lieu que l'on appelle la cuvette, afin que les clans disposent comme ils l'entendent et que la loi Sif s'y applique. Moi, Miquelon Courteram, justicaire de la primauté de Cornebrume, j'atteste par mon sceau de ce qui fut fait aujourd'hui. Tiré des archives de Château-Corne, daté de la 547e année du calendrier de Courcap. C'est quoi ces Sifs auxquels on fait allusion dans L'Enfant de Poussière, Patrick Doudnet, même beaucoup plus qu'allusion?
Alors, les Sifs, on y fait allusion en tant que peuple. En fait, il y a une, on va dire que l'histoire de L'Enfant de Poussière démarre dans une cité frontière qui porte le nom de Cornebrune. Et en fait, au-delà s'étend une contrée méconnue et assez vaste que l'on surnomme la forêt de pierre. Et en fait, à l'intérieur de celle-ci, il y a un certain nombre de peuples qui habitent, dont les Gaïches, les Gaïctes, les Païnotes et les Sifs. Et les Sifs, en fait, sont les plus connus parce qu'ils habitent le plus près de Cornebrune. Et en fait, du coup, génériquement, les Cornebrunois vont appeler Sifs tous sauvages qui vont rencontrer, en gros, qui est originaire de la forêt de pierre. Mais il se trouve qu'aussi le personnage principal de mon livre s'appelle Sif, et la raison, on est très simple, c'est que ayant reconnu très rapidement son ascendance, donc c'est un orphelin, Sif, on ne sait pas vraiment d'où il vient, c'est une espèce d'enfant abandonné qui a été recueilli par la ville et puis confié à une fermière en échange d'une réduction de sa gabelle. Sif, il s'appelle Sif aussi parce qu'en fait personne n'a vraiment daigné lui trouver un meilleur nom que Sif, donc voilà, il s'appelle Sif comme on pourrait appeler un chat ou un rat, voilà.
Je regarde la quatrième de couverture, parfois mal faite mais celle-là est bien faite. Tour à tour serviteur, espion, apprenti d'un maître chirurgien, son existence bascule lorsqu'il se voit accusé d'un meurtre. Serviteur, espion, l'apprenti assassin. Est-ce qu'il y a quelque part un clin d'œil, un hommage un peu à l'assassin royal de Robin Hood? Ou c'est juste un hasard?
Alors, pour le coup, dans la formulation, je pense que c'est un pur hasard. Par contre, il me semble évident que Robin Hood constitue pour moi... c'est une grosse influence dans la rédaction du cycle de Sif. Je pense que c'est... qu'elle a su redéfinir un peu le genre, en fait. Alors, ça va paraître un peu convenu, ce que je vais dire, mais enfin, en gros, j'ai l'impression qu'elle s'est emparée de la fantaisie et elle l'a mélangée avec d'autres genres littéraires, notamment le feuilleton fleuve, en fait, ce qu'on peut appeler... Enfin, le feuilleton populaire, par exemple, tous ces livres qui étaient publiés avant, au début du siècle, par exemple, dans les journaux, et qu'on achetait donc le journal pour suivre l'histoire, les Trois Mousquetaires, ce genre de choses-là, les Mystères de Paris. Voilà. En fait, je crois qu'elle a réussi à combiner assez brillamment ces deux, on va dire, ce double aspect, c'est-à-dire L'aspect un peu vénérable, un peu mythologique, un peu sérieux entre guillemets de la fantasy dans ce qu'elle peut avoir de sobre ou d'historique, et le côté page-turner très axé sur la psychologie des personnages, le développement intérieur des personnages, et qui pour moi est un regard résolument moderne en fait sur le mythe finalement. Et j'assume pour le coup complètement la référence.
C'est aussi l'histoire de ce qu'on peut appeler, ça c'est le rapport de la fantasy avec aussi la situation contemporaine, moderne. On parle aussi en carême de couvre d'un enfant soldat, je trouve que c'est pas absurde, c'est en tout cas un passage pour le héros, clairement. C'est une trilogie aussi, hein, le premier volume. Heptalogie. Wow. Ah ouais, l'ambition. Je comprends mieux pourquoi il reste encore plein de choses à découvrir, mais qu'on est accro, quoi. Quand on ferme le livre, on est accro. C'est quand le prochain ?
Alors, on a décidé, comme c'était un peu injuste de faire attendre les lecteurs entre les deux premiers tomes, on a décidé d'une sortie en septembre. Donc, le prochain tome va sortir en septembre.
Ah ouais.
Par contre, après, je travaille à flux tendu depuis un an et demi. Ouais. J'ai besoin de repos. Donc, je vais pas faire mon R.R. Martin et voilà.
Non, quand même pas
voilà.
Trop.
Mais je pense que je vais avoir besoin. En fait, c'est la première chose, la première rencontre que j'ai eue avec Marion. La première chose,
Marion Mazurik, voilà, Diable Vert, éditrice de talent.
Voilà. La première exigence que j'ai eue vis-à-vis d'elle, c'était ne m'oblige pas à écrire. Laisse-moi le temps d'écrire un bon livre. Je sais que si on se lance dans une série, il y aura des attentes derrière, mais j'ai pas envie d'avoir de pression pour pouvoir justement, faire quelque chose dont les lecteurs seront contents. Et le premier tome, je l'ai écrit maintenant, j'ai commencé à l'écrire il y a, 5 ans en fait, non 4 ans, j'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans, et donc là j'ai bouclé il y a quelques semaines le tome 2, du coup le troisième tome a priori ce sera probablement dans 2 ans après la sortie du tome 2, voilà.
D'accord.
Ça va faire long, je sais.
On va souffrir, mais voilà, on a parfois intérêt pour avoir des bons livres. C'est aussi des livres qui marquent. J'ai remarqué que vous avez eu le prix Virilo. Je me suis dit, macho. Finalement, j'ai lu le livre. J'ai pas ressenti ça. J'ai plutôt senti une solidarité, sinon un vrai féminisme affirmé.
Absolument. Mais le prix Virilo, c'est un prix qui a commencé comme le prix Renaudot, comme une parodie je crois que c'était du Goncourt, le Renaudot. C'est ça. Et en fait, ça fait maintenant 12 ans qu'il tourne. Et en fait, du coup, ils parasitent le prix Femina. Et ils ont maintenant leur petite cérémonie officielle au Femina, en fait. D'ailleurs, le jury est principalement constitué de femmes, qui donc portent la moustache pour l'occasion. Effectivement, le cycle de Sif est clairement un cycle dont les thèmes principaux sont sociaux. Et le féminisme, oui, très clairement, on fait partie. On va découvrir de nombreux peuples dans cette saga, et certains ont des manières très égalitaires de fonctionner, d'autres plus autoritaires. On va dire que tout ça est un prétexte à avoir une réflexion sur notre monde actuel. Ça, c'est indéniable. Ouais.
On va retrouver la cresserelle, Patrick Morand. Ce qui lui reste à faire, c'est inverser la procédure. C'est avec peine qu'elle se relève et retourne à sa chambre. Plus elle voit les cadavres, plus elle se rend compte de ce qui est arrivé, et sa capacité à l'horreur et à l'effroi, pourtant ternie par des années de violence, commence à paralyser le cours de ses pensées. Dans la chambre, elle se déshabille et pose ses vêtements pliés sur le tabouret pour ne pas les ruiner à nouveau. Elle s'assoit dans l'eau sale et froide du bain, parce qu'il faut bien que le sang aille quelque part, et tâtonne pour retrouver le chemin du rituel qui a provoqué tout cela. Ce n'est qu'après quelques instants qu'elle se rend compte avec consternation qu'elle est désormais incapable d'inverser la procédure pour pouvoir à nouveau faire les opérations qui lui permettraient de reconnecter son espace extérieur et son espace intérieur. Elle devrait à nouveau augmenter ses capacités cognitives. Or, celles-ci ne peuvent l'être qu'en puisant dans cet espace intérieur dont elle s'est déconnectée. Rien ne peut la sortir de cet état aberrant dans lequel elle s'est délibérément jetée. Rien ne pourra l'empêcher la contamination. Elle ne peut que souhaiter que la vague mortelle cesse avec Shaz Narim. L'infection est rapide et l'isolement des cités-états du désert de Yomranda pourrait jouer en leur faveur. Mais que va-t-elle faire, elle, rester ici à perpétuité parmi les cadavres ou quitter la ville, errer de lieu en lieu et porte saine, propager l'épidémie à toute l'humanité. Une épidémie causée par sa propre folie, par son désir d'aller à l'encontre de ce qui lui était prescrit, d'aller à l'encontre des lois fondamentales de la réalité. Elle sourit en coin. Au moins, j'ai prouvé que c'était possible, murmure-t-elle. Est-ce que finalement, quand on est porteur ou porteuse, en l'occurrence, de violence, lorsque on répand la mort et le sang autour de soi, est-ce que finalement, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'ailleurs, et il n'y a plus qu'une impasse et éventuellement la sortie par la mort? Je ne révèle vraiment pas l'avenir du personnage qui ne va pas mourir si vite parce que sinon il n'y aurait plus de roman. On va pas, je peux faire spoiler, mais très légèrement. Patrick Morand, est-ce que vous pensez qu'un personnage qui est dans une telle impasse, le narrateur va nous trouver des solutions, plus exactement l'écrivain va nous trouver des solutions? C'est exprès que vous mettez ce personnage dans des situations invraisemblable, horrible, où il paraît aucun espoir, et que malgré tout, vous arrivez à nous faire croire qu'elle va s'en sortir?
Oui, c'était délibéré. Je voulais vraiment essayer de voir jusqu'où je pouvais pousser l'archétype de l'anti-héros le plus loin possible dans la noirceur, dans le négatif, justement, et voir comment, malgré tout, on pouvait quand même, par la bande, adhérer à ce personnage, le comprendre. Ce qui exigeait évidemment un certain nombre de remises en question, de rencontres aussi. La Cresserelle est un personnage solitaire, mais qui va se construire par son rapport à autrui malgré tout, et un peu par pelure d'oignon qui vont révéler progressivement d'où elle vient, son passé, ce qui explique sa manière d'être. Mais je dirais que sur la question de l'espoir et de la rédemption, la Cresserelle elle-même, c'est une technicienne, c'est une ingénieure en fait, une ingénieure de la magie. C'est pas une intellectuelle ou une théoricienne ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui a des idéaux. Elle est confrontée à des problèmes précis et elle se dit comment les résoudre. Donc elle réfléchit à court terme et elle trouve des solutions parce qu'elle est extrêmement douée, hein, elle maîtrise parfaitement son domaine. Elle fonctionne par solution à court terme sans réfléchir au long terme en fait, et c'est dans ce sens là qu'on peut dire qu'il y a effectivement un avenir qui est bouché, parce que la Cresserelle est un personnage qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes en fait, mais uniquement à des solutions, à des sortes de rustines temporaires qui vont l'entraîner dans une spirale de plus en plus catastrophique évidemment. Mais effectivement, comme le roman s'appelle La Cresserelle, voilà, elle meurt pas au bout du premier tiers.
Est-ce que votre Cresserelle, alors c'est un roman extrêmement original, hein, vous le découvrirez, est-ce que cette Cresserelle n'est pas aussi quelque part un hommage clin d'œil à un autre tueur, mais masculin celui-là, le Benvenuto de Jean-Philippe Jaworski? Est-ce que quelque part vous n'y avez pas pensé, même si ça n'a rien à voir, je le précise tout de suite à vos futurs lecteurs?
Ah ben c'est vraiment une bonne question, parce que effectivement ça n'a rien à voir en termes de ton ou de type d'histoire, mais je suis un grand fan de Jaworski effectivement, et c'est vrai que Benvenuto c'est un personnage particulièrement mémorable, et je dirais que s'il y a un point commun entre la Cresserelle et Benvenuto, très modestement, c'est justement, j'ai l'impression que chez Jean-Philippe Jaworski, il y a aussi cette volonté parfois de pousser les choses, de montrer Benvenuto faisant des choses qui vont vraiment poser problème au lecteur en fait. Pas le même type de choses, mais moi quand j'ai lu Gagner la guerre, il y a eu des moments où je me disais, ah non, c'est pas possible, je ne peux plus adhérer à ce personnage, c'est juste impossible. Et pourtant, on continue à lire et ça fait 900 pages et on le lit en 3 jours. Hein.
Entre autres, la scène avec la fille du podestat.
Exactement. C'est vraiment le moment où je me suis dit, ah, c'est plus possible.
Évidemment, scène qu'il a construite exprès pour pousser aux limites de la sympathie pour un personnage. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est le personnage qui se présente un peu comme l'espèce de renard, comme ça, sympathique, rusé, mais on voit que non. Il y a des.
La vraie brutalité
dans
humaine.
Dans un univers réaliste, voilà, c'est quelqu'un qui, de fait, manque cruellement de repères moraux. Et avec la Cresserelle, par contre, j'ai voulu partir d'un personnage le plus sombre possible au début, en fait, vraiment montrer plus ou moins la perception extérieure qu'on a de la Cresserelle dans l'univers où elle s'aventure, pour ensuite nuancer, et à la fois parce qu'on va apprendre à connaître le personnage et parce qu'elle-même va comprendre qu'elle ne peut pas rester dans cette logique mortifère de manière perpétuelle.
Et vous, Hélène Merel, est-ce que vous manquez de repères moraux dans vos romans, bien sûr?
J'espère que non. Il y a une réflexion morale, bien sûr, sur bah, j'ai un grand pouvoir, qu'est-ce que j'en fais ?
La fin et les moyens aussi.
Voilà, la fin et les moyens. Est-ce que n'importe quelle action est justifiée ? C'est un système où la magie a des règles. Certains sorts sont autorisés, d'autres sont interdits. De ce point de vue-là, oui, il y a une question morale, il y a un débat moral dans le roman.
Il y avait un petit terme d'ailleurs, ça sera, c'était ce matin un café littéraire où il y avait Robin Hobb, où j'avais choisi comme interrogation en fait un tweet qu'elle avait fait il y a quelques mois qui était l'écrivain n'est pas le personnage n'est pas le narrateur, et elle reprenait comme ça, je ne suis pas comptable de tous les actes, je ne l'approuve pas nécessairement, ni je ne désapprouve pas nécessairement. Je trouvais que c'était une vraie réflexion. Ce qui d'ailleurs est inquiétant, c'est qu'on soit encore obligé aujourd'hui de l'écrire pour des lecteurs. Mais bon, c'est un autre débat. Il faut que le lecteur progresse aussi, pas seulement nos écrivains. En tout cas, pour la génération française, et je pense qu'autour de cette tribune, on le voit, on peut dire qu'on a depuis, on le voit depuis plusieurs années, une incroyable maturité des écrivains français. Je trouve qu'ils arrivent avec des romans de plus en plus aboutis, de plus en plus originaux, qui maîtrisent à la fois les codes et qui font entendre leur propre voix, et des romans qui tiennent parfaitement la route face à toute une série de romans anglo-saxons qui pourtant ne sont pas mauvais non plus. Florian Soulas, vous êtes un peu vous, alors j'ai pas fait un café littéraire thématique, hein, la preuve, il y a trois romans de fantasy avec des voix différentes et puis un roman un peu décalé par rapport aux trois autres, mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'était les premiers romans, ou en tout cas les premiers romans d'imaginaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire de l'imaginaire, vous, alors que, j'ai bien compris, puisqu'on vous verra, je crois que c'est demain matin, sur un autre débat, vous êtes blogueuse, booktubeuse, youtubeuse, quelque chose comme ça, non ?
Oui, aussi, j'ai une chaîne YouTube où je parle de littérature, mais j'écrivais déjà avant de commencer les vidéos. Et en fait, c'est très cliché, mais j'ai toujours su que j'allais écrire des livres. Enfin, voilà, mes parents m'ont mis très tôt à la lecture, et mon père surtout m'a mis très tôt à la science-fiction. Donc pour moi, c'était vraiment normal. Enfin, jusqu'à très récemment, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui considéraient que la science-fiction, c'était pas de la vraie littérature. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais il paraît qu'ils existent. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire jeune, ça m'est venu spontanément d'écrire de l'imaginaire parce que, de toute façon, dans le contemporain, il n'y a pas assez de morts, donc ça n'allait pas. J'avais pas de choses à raconter. Et du coup, j'ai commencé à écrire comme ça. Et il se trouve qu'après, je me suis retrouvée dans une autre ville, toute seule, et que du coup, j'avais plus vraiment de gens avec qui partager mes lectures parce que je partageais beaucoup avec mes amis et aussi avec ma famille. Enfin, même là, maintenant que je suis revenue sur Paris régulièrement avec mes parents, on s'échange des livres, on se dit « Ah, comment tu n'as jamais lu Sturgeon ? Mais c'est horrible, lis tout de suite Christelle qui songe, alors je vais le lire. » Et puis je lui dis « Comment tu n'avais jamais lu Robin Hobb ? Mais lis Robin Hobb, papa. » Et voilà. Et du coup, j'étais toute seule à Toulouse et c'est comme ça que je me suis dit « Mais en fait, j'ai découvert en traînant sur YouTube plein de jeunes femmes et aussi des garçons qui parlaient de livres. Je me suis dit, mais c'est incroyable, faisons ça. Et c'est comme ça que je me suis mis à parler de livres. Le steampunk, ça m'est venu... Pourtant, j'ai été une consommatrice abusive de fantasy dans ma jeunesse. Et le steampunk, ça m'est venu parce que quand j'ai commencé à faire des salons, que ce soit parce que j'écrivais ou par plaisir, j'ai commencé à voir tous ces gens costumés. Parce qu'on a eu quand même une espèce d'arrivée du steampunk en masse en France il y a quelques années. Et je me suis dit, mais c'est magnifique, qu'est-ce que c'est ? J'avais lu quelques romans, les Jules Verne qui préludaient au steampunk, ou Powell, les voix d'Anubis, ça commençait comme ça, mais c'était pas encore labellisé steampunk. Donc c'est venu vraiment avec cette esthétique vestimentaire et tout ça. Et quand j'ai commencé à me dire maintenant que j'ai écrit des nouvelles, que j'ai publié des nouvelles, je me sens les épaules pour écrire un roman vraiment, instinctivement, je me suis mis à écrire du steampunk. Donc c'est moi l'outsider aujourd'hui. Mais lisez du steampunk parce que c'est vachement bien, franchement.
Il y a des bons auteurs de steampunk qui est notre nouvelle invitée.
Il y en a plein ici aussi.
Florian Soulas. Oui, évidemment, si on parle de Johan Elliott, ça
voilà.
C'est
encore... Mathieu
oui.
Gabory.
C'est les grands du genre. Bon. Florian Soulas rouille une belle exploration d'un 19e parallèle, mais qui nous renvoie quand même à pas mal de choses. Hélène Merel, alors évidemment le roman est paru chez Scrinéo. Hélène P. Merel, L'automne des magiciens, sa série tome 1, La fugitive, nouvelle découverte chez Bragelonne. La cresserelle de Patrick Morand aux éditions Mnemos. Et puis le quatrième, Patrick K. Doudney, L'enfant de poussière. Quatre voix différentes, quatre romans très différents, parfois des one-shots pour deux d'entre eux. Deux séries qui démarrent, Mais je peux vous dire qu'avec ces quatre romans, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez découvrir les voies de l'imaginaire d'aujourd'hui. Et je vous dis que, comme moi, vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir Florian Soulas, Patrick Morand, Hélène Merel et Patrick Doudnet. Merci à eux et vive la littérature d'imaginaire et sa nouvelle génération.